France Culture.
18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. En sandales chaussettes et appareil photo en bandoulière, il a observé avec finesse ses semblables durant un demi-siècle. Le photographe britannique Martin Parr s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Nous reviendrons largement sur son parcours et son regard teinté d'humour sur la société britannique et ses contradictions. Nous dirons au Japon où les menaces de Pékin s'accentuent après un incident entre avions militaires survenu hier au sud de l'archipel nippon. Nous parlerons de digues qui cèdent à droite. Celle érigée jusqu'ici contre le Rassemblement National, après les différentes déclarations de personnalités LR ce week-end. Et puis les couloirs de l'école ne doivent pas être ceux de l'horreur. Le collectif MeToo École exhorte Emmanuel Macron à protéger les enfants après la multiplication de signalements d'agressions sexuelles dans les écoles. Fin observateur de la société britannique sur laquelle il a toujours posé un regard attachant autant qu'ironique. Le célèbre photographe Martin Parr est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Célèbre pour ses clichés aux couleurs criardes, recourant au flash, y compris en extérieur. Son style a marqué un tournant dans le monde de la photographie documentaire, donnant à voir le meilleur et le pire, le bon goût et le kitsch de l'Angleterre. Les clichés de Martin Parr étaient immédiatement reconnaissables. Lou Momège.
Plages saturées de monde, caddies remplis à ras-bord, pâtisseries luisantes ou hamburgers qu'on dévore, c'est la vie de tous les jours que capture Martin Parr dans toute sa trivialité. Sa passion, il la tient d'ailleurs de son grand-père, amateur de photographie. Et toute sa vie, Martin Parr s'attachera justement à rendre compte de ce qu'il voit sans prétention artistique. C'est ce qu'il racontait sur France Culture en 2022, alors interrogé par Arnaud Laporte.
La première chose à dire, c'est que je prends beaucoup de mauvaises photographies, de mauvaises images, et pour avoir une seule qui sera la bonne. Et ce que j'ai de faire à la fin, c'est de retrouver cette innocence, cette spontanéité que l'on a dans ces photographies vernaculaires. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Donc je dois désapprendre tout ce que je sais déjà et revenir à ce moment d'innocence qui fait que la photographie vernaculaire est si incroyable et si forte.
Mais c'est aussi une photographie engagée qu'offre Martin Parr, très critique notamment de Margaret Thatcher, ou bien du consumérisme, il a développé un style bien particulier, parfois mal interprété, selon Clémentine de la Ferronnière, galeriste à Paris et représentante de Martin Parr.
Il avait cette marque de fabrique d'utiliser un flash, de photographier très proche des gens, qui donnait un côté très critique et acerbe à ses photographies. Alors, on a souvent pensé au premier regard que ces photographies pouvaient être critiques dans le sens négatif du terme, mais en fait, il ne faisait que s'intéresser à la réalité qui était la nôtre.
Un style kitsch revendiqué qui lui a parfois valu de lourdes critiques. Il peine d'ailleurs à intégrer la célèbre agence Magnum, mais finit par y entrer en 1994. Magnum qui pleure aujourd'hui un de ses grands noms. New Brighton,
caissière. Lou Momège pour France Culture et l'interview de Martin Parr au micro d'Arnaud Laporte dans Affaires culturelles est à retrouver en une de notre site franceculture.fr. Et c'est au Royaume-Uni demain que les Européens tenteront une nouvelle fois de peser sur les négociations pour la fin de la guerre en Ukraine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueille ses homologues français et allemands Emmanuel Macron et Friedrich Merz autour de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien auquel le chef de l'État français réitère son soutien indéfectible, tandis que des négociations se sont poursuivies en Floride aux États-Unis ce week-end entre Américains et Ukrainiens. Benjamin Netanyahou prévoit lui de passer très bientôt à la phase 2 du cessez-le-feu à Gaza. Le premier ministre israélien qui doit rencontrer Donald Trump ces prochains jours dit espérer passer rapidement à la deuxième phase du plan de paix américain qui prévoit, on le rappelle, le désarmement du Hamas, le déploiement d'une force internationale dans l'enclave et le retrait de l'armée israélienne. Or, parallèlement, le chef de l'armée israélienne affirme à l'instant que la ligne jaune de démarcation dans Gaza, là où l'armée israélienne est déployée depuis le début du cessez-le-feu, est désormais la nouvelle frontière du pays. Une tentative de coup d'État au Bénin ce matin, où en l'espace de quelques minutes, un groupe de militaires a pris le contrôle de la télévision publique et annoncé, armé de fusils d'assaut, avoir démis le président Patrice Talon de ses fonctions. Mais l'armée a rapidement repris le contrôle et arrêté une douzaine de militaires. L'Union africaine condamne sans équivoque cette tentative de coup d'État. Les tensions entre la Chine et le Japon semblent franchir un nouveau cap. Si les relations entre les deux pays se sont considérablement envenimées depuis les déclarations de la première ministre japonaise au sujet de Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté, eh bien un nouvel incident survenu hier hier en haute mer entre des avions militaires chinois et japonais au sud-ouest de l'archipel nippon accentue un peu plus la crise diplomatique entre les deux pays. Karine Nishimura.
Selon le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, samedi, en deux phases successives, des avions chasseurs chinois ont dirigé de façon intermittente leur radar de conduite de tir sur des avions des forces d'autodéfense japonaises, un incident jugé grave qui n'était jamais arrivé dans le passé. Shinjiro Koizumi.
Ces illuminations radar dépassent le cadre nécessaire pour la sécurité des vols. Elles sont dangereuses et extrêmement regrettables. Nous avons protesté auprès de la Chine afin que des dispositions strictes soient prises pour éviter une récidive.
Pékin réfute ces accusations et explique que les Japonais perturbent des exercices militaires qui avaient été au préalable annoncés dans le détroit de Miyako. Les forces d'autodéfense japonaises font régulièrement décoller leurs avions chasseurs depuis des bases situées à Okinawa afin de surveiller la présence et les activités de bateaux et avions chinois dans les zones à proximité des îles japonaises du sud-ouest. Ce nouvel accro intervient alors que Pékin a pris diverses mesures de rétorsion envers le Japon depuis que la première ministre japonaise Sanae Takaichi a jugé qu'une intervention armée de la Chine sur Taïwan pourrait constituer une menace existentielle pour le Japon.
Vous écoutez France Culture, il est 18h06 et c'est un cordon sanitaire qui devient de plus en plus ténu, celui dressé jusqu'ici contre l'extrême droite et consumé petit à petit par les Républicains. Après la confusion entretenue par Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, qui au deuxième tour des municipales appellera à voter tout, sauf LFI, Bruno Retailleau, le patron du parti, invite aujourd'hui les électeurs à une union des droites dans les urnes lors des prochaines élections. Quand Nicolas Sarkozy relate dans son dernier livre son appel à Marine Le Pen lors de sa détention pour lui préciser qu'il ne s'associerait pas à un éventuel front républicain contre le RN. De quoi susciter la colère de Xavier Bertrand, ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2007 et président LR de la région Hauts-de-France. Il demande une clarification au sein du parti.
Je préfère les positions politiques de Nicolas Sarkozy de 2007 que les positions politiques de Nicolas Sarkozy en 2025. À l'époque, combattait le Rassemblement National. Et par l'action et par des convictions, et par une fidélité aussi à ce qu'est le mouvement de Jacques Chirac, aucune collusion avec les extrêmes.
Est-ce que vous considérez que ce que dit là l'ex-chef de l'État, c'est un appel à l'union des droites? Vous diriez ça?
Soyons clairs là, union des droites, non. Non, c'est l'union de la droite avec l'extrême droite. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui, chez nous, chez LR, viennent certainement à des réunions LR en pensant au Rassemblement National. Bah, qu'ils y aillent au Rassemblement National.
Une clarification, que les choses, ce que vous appelez de vos voeux.
Que les choses soient claires. Que les choses soient claires, j'entends trop de personnalités chez les Républicains qui disent, bah, quand même, quand il y a une élection législative, pas une voix pour la gauche. Non, je voudrais entendre pas une voix pour le Rassemblement National. Moi, je suis capable de dire, ni LFI, ni RN.
Xavier Bertrand, invité de nos confrères de France Inter ce midi, Bruno Retailleau, qui par ailleurs appelle les députés, les Républicains aujourd'hui, à ne pas voter le budget de la Sécurité sociale, budget qu'il qualifie de hold-up fiscal, social et démocratique, accentuant donc un peu plus la pression sur le gouvernement et sur le Premier ministre à 48 heures du vote dans l'hémicycle de la partie dépenses, puis de l'ensemble du texte et dont l'adoption paraît plus qu'incertaine. Contre les violences faites aux enfants, ils attendent du chef de l'État des actions forte. Un collectif de citoyens et de parents d'élèves rassemblés sous le hashtag MeTooÉcole interpelle Emmanuel Macron dans la tribune dimanche après une série de signalements d'agressions sexuelles commises sur des enfants dans des écoles maternelles. Ce collectif réclame notamment un contrôle systématique des antécédents des professionnels au contact des enfants. Écoutez Barca, l'une des parents d'élèves qui a signé cette lettre ouverte au président de la République.
Quand on dépose notre enfant à 8h20 à l'école, dans l'école républicaine, on espère retrouver son enfant à 16h30 ou à 18h, sans se poser une seule question, ni avoir un doute sur le fait qu'il ait passé une journée dans les couloirs de l'horreur. Ça, c'est pas possible. Et il y a des parents qui nous appellent en disant « qu'est-ce que je dois faire ? Qui dois-je appeler ?» Ils sont complètement désemparés, en fait. C'est pour ça qu'on a fait cette lettre. On s'est dit « tiens, on fait le travail des institutions et... » C'est pas à nous de le faire, normalement. Comment voulez-vous, à 3, 5, 8 ans, avoir subi ce traumatisme? Comment voulez-vous qu'il se construise si l'État n'est pas derrière? C'est pas possible. Il faut que ça change. Il faut que les lanceurs d'alerte soient protégés. Il faut que, dès qu'il y a un signalement, la personne soit mise à pied. Il faut qu'il y ait des contrôles. Un animateur, une animatrice en charge de nos enfants doit être formé, doit être contrôlé et doit avoir un casier judiciaire vierge.
Propos recueillis par Édouard Barruet pour France Culture. La météo de votre lundi avec un temps pluvieux attendu demain matin sur le nord du pays. Le ciel sera en revanche dégagé de la Nouvelle-Aquitaine à la région Auvergne-Rhône-Alpes et les éclaircies gagneront le centre-val de Loire et la Bourgogne dans l'après-midi. Les températures restent douces avec 10 à 14 degrés attendus au réveil sur la moitié nord et 3 à 9 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Benetto.